Bien, merci. Donc, je vais parler d'un sujet beaucoup plus, je vais me focaliser sur un sujet beaucoup plus précis qui est le commerce africain. Bon, en fait, Pierre Jacquet et Akiko Osua ont déjà dit d'une certaine manière que le commerce international, la mondialisation, c'était un peu la porte d'entrée de la crise financière actuelle dans l'Afrique, et c'est tout à fait exact. Et c'est donc pour ça que c'est extrêmement important de comprendre la vulnérabilité de l'Afrique à la crise financière, et en particulier donc par le mécanisme du commerce international. Donc c'est ce que je vais regarder maintenant. Donc au départ de la crise financière, il y a eu une vue assez courante, mais qui a été éliminée assez rapidement, c'est que finalement le faible développement financier de l'Afrique, le faible développement de l'intégration financière des pays africains, allait finalement protéger les pays africains de la crise financière. Parce que contrairement à la crise financière de 97-98 qui est née dans les pays émergents, c'est-à-dire qui est née en Thaïlande, Indonésie, etc. Là, c'est une crise financière qui est née, bien entendu, aux États-Unis, en particulier avec la crise des subprimes. Et donc, le sous-développement relatif du continent africain allait protéger l'Afrique de la crise financière, en particulier parce que vous alliez avoir moins d'effets de richesse, hein, étant donné que les banques africaines et les ménages africains n'avaient pas investi dans les subprimes, bien entendu, l'effondrement des subprimes n'allait pas avoir d'impact direct sur l'Afrique. Il n'y a pas eu de plan de sauvetage des banques en Afrique. Et donc a priori, l'effet direct n'était pas là comme il était, comme il existait, comme il a existé aux États-Unis ou en Europe. Donc nous, notre argument, en fait, c'est cette présentation est basée sur un travail en cours avec Nicolas Berman. C'est peut-être, en effet, ces effets directs sur l'Afrique n'existent pas, mais en fait, le sous-développement relatif des systèmes financiers en Afrique peut, en revanche, aggraver l'impact indirect de la crise via l'effet que la crise a eu sur le commerce africain, dont je rappelle, en fait, bien entendu, c'est la porte d'entrée de la crise financière pour les économies africaines et qui ont des impacts au-delà des impacts macroéconomiques. Moi, je vais parler de macroéconomie, mais Akiko Osua a bien montré que ça avait un impact jusque dans les ménages, donc au niveau très micro, jusque dans les ménages africains. Alors, juste pour donner le contexte général, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que c'est quelque chose que je pense vous connaissez déjà, juste l'effondrement du commerce mondial qui est tout à fait sans précédent. Alors, s'il y a eu une session ce matin, donc peut-être qu'il ne faut pas trop que je revienne trop là-dessus, mais pour ceux qui n'ont pas été là. Là, c'est un graphe qui est basé sur un papier d'historien économique qui compare l'effondrement du commerce mondial de la Grande Dépression, donc celle des années 30, et de la Grande Crise, celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et qui fait partir, donc c'est le commerce mondial là, qui est à une base 100 avec le pic, donc c'est mensuel, donc en bleu vous avez la Grande Dépression des années 30, mois par mois, avec cette baisse du commerce mondial à partir de 1929, et puis pour la crise, notre crise actuelle, celle qui part en avril 2008. Vous voyez cet effondrement, et vous voyez que non seulement, bien entendu, le commerce mondial s'est effondré plus que n'importe quelle autre crise depuis 1950, mais en fait, il faut revenir à la crise de 1929 pour avoir un effondrement aussi important, et même, vous voyez au moins dans les premiers mois, même plus important que la crise des années 30, avec ce regain, juste à la fin, et dont on pourra reparler, qui est lié au fait que, contrairement à la crise des années 30, les politiques macroéconomiques, en particulier budgétaires et monétaires, ne sont pas restées inertes. Alors, clairement, cet effondrement du commerce mondial, il est lié en particulier à l'effondrement de la production industrielle mondiale. Encore une fois, vous voyez que cet effondrement, aujourd'hui, il suit, dans les premiers mois au moins, la première année, exactement le même mécanisme que ce qu'on a vécu dans la Grande Dépression. Donc ce n'est pas une récession normale, ce qu'on a vécu, c'est vraiment quelque chose qui suit une mécanique de la Grande Dépression. Et puis, vous voyez là encore un regain, dont je ne sais pas s'il va se continuer d'ailleurs, mais un regain, une stabilisation et un petit regain après coup. D'accord ? Donc là, je passe sur les États-Unis. Alors, On va parler donc des exportations africaines et de la question est-ce que les exportations africaines sont plus vulnérables à une crise financière qui a lieu dans un pays vers lesquels ils exportent. Une grosse différence avec la crise financière des années 97-98, c'est encore une fois, c'est que 97-98, c'est les pays émergents qui ont eux-mêmes une crise financière. Les banques sont en faillite, etc. Là, c'est un scénario assez différent au sens où ce sont les banques américaines qui font faillite, c'est la récession aux États-Unis et en Europe qui se propage aux pays émergents, puisque les pays émergents, dans ce cas, ne sont pas le centre de la crise financière. Et donc, il est intéressant de regarder en particulier ce qui se passe sur les exportations vers les États-Unis, qui sont encore une fois le centre de cette crise. Donc là, vous voyez les exportations vers les États-Unis d'un certain nombre de pays. Vous voyez l'Afrique en rouge et prenez en bleu, ce qui est peut-être la comparaison la plus facile, le reste du monde, enfin le monde en général. Et vous voyez quelque chose qui revient un petit peu sur ce que disait Akiko, c'est-à-dire la grande volatilité d'abord des exportations africaines vers ce pays, mais je pense que ce serait la même chose vers l'Europe. Vous voyez une très forte augmentation à partir de janvier 2007, qui est aussi un effet valeur, simplement parce que vous avez une augmentation des prix des produits primaires sur cette période, et un effondrement plus fort que les autres pays, en particulier les pays le reste du monde en bleu, et même certains que les pays, par exemple les pays latino-américains. Si vous essayez, alors la critique évidemment de ce premier graphe, c'est de dire mais oui, mais tout ça c'est simplement la chute des prix du pétrole qui fait que vous avez un effondrement en valeur des exportations. Non, c'est pas seulement ça, parce que si vous regardez les exportations vers les États-Unis à partir de septembre 2008, c'est-à-dire le moment de la crise de Lehman et où vraiment le commerce mondial commence à baisser, mais après en fait le début de l'effondrement aussi des prix du pétrole, c'est-à-dire que l'effet valeur joue beaucoup moins. Vous voyez aussi le même type de graphe, c'est-à-dire le fait que les exportations chutent pour tout le monde, mais chutent plus pour l'Afrique subsaharienne que les autres pays, que les autres régions. Et ce n'est pas simplement les produits primaires, hein, c'est aussi les produits manufacturés africains vers les États-Unis. Vous voyez que, par exemple, si vous prenez la courbe verte avec les petits triangles jaunes, hein, ce sont les exportations de produits manufacturiers africains vers les États-Unis. C'est ce qui chute le plus. D'accord ? Donc ce n'est pas simplement un effet des biens primaires. On voit bien que l'Afrique, de ce point de vue, est plus vulnérable dans cette crise financière à la crise économique et financière qui a frappé les États-Unis et qui donc frappe indirectement l'Afrique via le biais du commerce international. Donc ça amène à cette question l'Afrique. Dans cette crise, dont on a dit à mon avis à juste raison que c'est la première crise de la mondialisation et qui donc est une crise de la mondialisation aussi pour les pays africains, est-ce que les exportateurs africains sont plus vulnérables à une crise financière qui touche les pays vers lesquels ils exportent? Il y a deux mécanismes assez clairs qu'on peut identifier. Il y a un effet revenu tout simple. Crise financière aux États-Unis, en Europe, il y a donc une baisse de la consommation dans ces pays et donc de manière assez mécanique aussi, une baisse des importations de ces pays, en particulier de l'Afrique. D'accord ? Mais on a vu que pour l'Afrique, apparemment, c'était plus fort que pour les autres régions. Et puis il y a un effet qu'on appelle un effet de destruction, pas un très beau mot, mais on va trouver une meilleure appellation, c'est-à-dire que la crise financière, elle perturbe aussi les relations commerciales, et en fait, elle agit comme une augmentation des coûts de commerce. On s'est rendu compte, à l'occasion de cette crise, que toute l'ingénierie financière autour du commerce international est extrêmement importante. Par exemple, ce qu'on appelle les lettres de crédit, tout ce qui fait que lorsque vous exportez ou que vous importez, en fait, la plupart du temps, vous êtes obligé de passer par une assurance, par une banque, doit faire crédit à l'importateur, etc. Et toute cette ingénierie financière, pour laquelle on ne s'est pas tellement intéressé, très franchement, en tant qu'économiste, et à tort, s'est avérée extrêmement importante dans cette crise et peut expliquer en partie l'effondrement du commerce. Il y a une partie qui est mécanique, si le revenu baisse, la consommation baisse, les importations baissent, donc il y a une partie mécanique dans cette baisse du commerce, mais il y a un effet supplémentaire, qui est cet effet de destruction, qui peut être lié à d'autres choses d'ailleurs, hein, une montée du protectionnisme des pays industrialisés vis-à-vis des pays africains, peut-être, même si je pense que pour le moment on n'a pas encore ce type de politique de manière très très claire, mais on peut avoir d'autres effets. Alors, donc ce qu'on a fait, c'est un travail empirique sur cette crise et aussi sur les crises passées, hein, d'essayer de regarder. Parce qu'il y a d'autres crises financières, par exemple, prenez la Suède en 93, elle a eu une crise financière, et c'est intéressant de voir l'impact sur le commerce mondial, mais en particulier sur le commerce africain, des crises financières passées. Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur la vulnérabilité des exportateurs africains à cette crise spécifique, qui est clairement beaucoup plus importante que les crises passées, mais qui est intéressante en soi. D'accord ? Donc ce qu'on voit, c'est que pour les pays africains, en fait, les pays africains sont plus vulnérables que les autres pays lorsque une crise frappe les pays vers lesquels ils exportent, leurs partenaires commerciaux. Donc l'effet revenu est plus important. Hein. La France a une crise, une récession, ses importations baissent, mais ses importations baissent plus en moyenne des pays africains que des autres régions. Et l'Afrique est aussi plus vulnérable aux crises financières. C'est-à-dire même en contrôlant pour cet effet revenu, d'accord, dans le travail empirique qu'on fait, même en contrôlant pour l'effet revenu, on voit qu'en fait, une crise financière a un impact plus fort sur les exportations africaines vers ce pays en crise financière que pour le reste du monde. Donc il y a un effet de destruction aussi qui est plus important. La méthodologie, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, c'est une méthodologie assez standard en commerce international, ce qu'on appelle les équations de gravité. La question à laquelle on essaye de répondre, c'est de combien baissent les exportations d'un pays, hein, vers le PIB lorsque le PIB a une crise financière, et de combien donc dévie le commerce, hein, entre ces deux pays par rapport à ce qui est prédit, disons, par ce qu'on appellerait, hein, dans cette littérature, le commerce naturel, de combien ça baisse du fait simplement, hein, de la crise financière au-delà de l'effet revenu. Donc le plus simple, je crois, c'est de vous montrer, alors pour l'effet revenu, hein, c'est ce que je disais, donc je ne vais pas le répéter, c'est que sur les importations américaines mensuelles, donc de janvier 2005 à juillet 2009, l'effondrement des importations américaines, il est très bien expliqué, en fait, par l'effondrement de la production industrielle américaine. Vous avez la production industrielle qui chute, et donc elle importe moins, l'industrie américaine importe moins, et donc il y a un effet très clair. Et en fait, la baisse du commerce mondial est très bien expliquée simplement par cet effondrement de la production industrielle. Sauf pour l'Afrique. Pour l'Afrique, vous avez un effet supplémentaire. Toute la baisse des exportations africaines vers les États-Unis ne peut pas être expliquée simplement par la baisse de la production industrielle américaine. Et donc, il y a un effet supplémentaire sur l'enseignement des crises passées. Hein. Les crises financières sont associées, et ça on le sait, je pense que c'est quelque chose dont on a certainement discuté dans ces journées, à des récessions plus fortes et plus longues, donc baisse de la demande et baisse des importations. Encore une fois, les exportateurs africains sont en général plus vulnérables à une grosse récession, hein, chez leurs partenaires, en particulier sur les produits primaires, mais pas seulement sur les produits primaires. Alors, l'effet de destruction, là encore, c'est... Donc, faut faire attention, hein, il y a l'effet revenu et il y a l'effet de destruction. On essaie de distinguer. Donc l'effet de destruction, c'est en contrôlant pour l'effet revenu. On sait que les importations doivent baisser parce que le revenu du pays vers lequel on exporte baisse, mais on essaie de voir qu'est-ce qui se passe au-delà de cet effet. Et donc, on va regarder ce qui se passe à la fois en moyenne dans le monde et en Afrique quand vous exportez vers un pays qui est en crise financière. Donc ici, c'est un graphe, c'est pas très compliqué. La ligne zéro, c'est les exportations d'un pays vers un autre telles qu'elles sont prédites naturellement, la distance, les accords commerciaux, l'histoire, etc. etc. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand dans le pays vers lequel vous exportez, vous avez une crise financière en temps zéro. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe sur les exportations vers ce pays ? De combien les exportations dévient par rapport à ce qu'elles seraient normalement prédites par le revenu, l'histoire, la distance, etc. etc. Ce que vous voyez, c'est que vous avez un effet immédiat, en gros, en moyenne, hein, ça c'est pas les pays africains, c'est en moyenne, vous avez une baisse des exportations vers ce pays qui a une crise financière de 4%. Les exportations baissent plus que ça, hein, parce qu'il y a l'effet revenu en plus. Hein, ça contrôle pour l'effet revenu. Ça, c'est l'effet de destruction, simplement, du fait, par exemple, que l'ingénierie financière est en mauvaise forme. Peut-être qu'il y a des effets aussi de protectionnisme pendant une crise financière, etc. Vous voyez que cet effet est assez long, hein, puisque Akiko parlait des effets permanents. Vous voyez qu'après 5-6 ans, vous voyez qu'il n'a pas disparu et il est assez long. Mais bon, c'est moins 5% cet effet de destruction. Si on regarde les exportations africaines, vous voyez un effet beaucoup plus important, hein, là encore assez permanent, qui disparaît seulement qu'après 7 années, mais vous voyez que c'est moins 40%. Donc un effet beaucoup, beaucoup plus important sur les exportations africaines que sur la moyenne. Alors il faut faire un petit peu attention parce que ça c'est au niveau sectoriel et pas au niveau agrégé. Quand on le fait au niveau agrégé, on obtient quelque chose de moins dramatique pour les exportations africaines. Mais il en reste pas moins que les exportations africaines, cet effet de destruction est plus important. Et c'est vrai à la fois pour les biens primaires et pour les biens manufacturiers. On ne voit pas vraiment de différence notable entre les deux. Alors d'où ça vient ? Et je reviens à mon point de départ. Le point de départ des économistes sur cette crise et l'impact sur l'Afrique, c'était d'être pas relativement optimiste, mais en disant, voilà, le sous-développement financier de l'Afrique, dans une certaine mesure, c'est une aubaine, un peu pour l'Afrique, parce que ça signifie que les effets directs ne seront pas là. Ils n'ont pas acheté de subprime, ils n'ont pas fait des placements un peu étranges dans des produits exotiques. Mais nous, notre point, c'est de dire que l'effet indirect, via le commerce, est plus important, et on essaye de le montrer en regardant la différence entre les pays qui sont très où la finance de commerce est extrêmement importante, où les pays sont dépendants de cette finance de commerce, et les pays où ils le sont moins. Et de fait, on voit que les pays pour lesquels la finance commerciale, toute cette ingénie financière est importante, la chute est encore plus importante. Alors, en termes de conclusion, hein, si j'ai encore
5 minutes.
Oh, ça donnera plus de temps à la discussion, au débat, c'est très bien. Donc, en termes de conclusion, bon, donc je crois que les points que vous voulez mentionner sont, j'espère, assez clairs. Une forte dépendance des exportations africaines au système financier externe, en fait, hein, et donc ça vient en particulier du fait que le faible développement financier de l'Afrique ne protège pas son économie contre les crises financières. Au contraire, je crois que c'est une fausse bonne idée de penser ça. L'interprétation, pour le moment, elle est assez... je ne mettrai pas ma main au feu, mais l'interprétation, c'est que la crise financière, c'est quoi ? C'est une énorme augmentation de l'incertitude, une baisse de la confiance et de la liquidité. Et donc, les banques et les entreprises des pays qui sont en crise coupent les crédits aux pays qui sont perçus, à tort ou à raison, hein, d'ailleurs, comme plus risqués. Et en particulier, on a vu que les taux des lettres de crédit, le prix, le coût des lettres de crédit a fortement augmenté pendant cette crise, et en particulier pour les pays émergents et les pays en voie de développement, ce qui d'un seul coup fait augmenter le coût du commerce, comme une augmentation des coûts de transaction au commerce international. On a vu aussi, alors ça c'est peut-être plus vrai pour les pays émergents européens, je ne sais pas à quel point c'est vrai pour les pays africains, que les institutions financières internationales qui avaient beaucoup investi dans les banques de ces pays ont renationalisé leurs opérations, hein, donc les exportateurs des pays avec un système financier qui est plus développé sont plus à même de résister à cette renationalisation des systèmes financiers. Et je voulais juste terminer par quatre questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse. Hein, peut-être Pierre et Akiko auront des réponses plus précises. Est-ce que le protectionnisme a joué un rôle dans cette histoire, hein? Est-ce que finalement on s'est protégé de manière un peu subtile, hein, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus du protectionnisme comme on le faisait dans les années 30 avec des augmentations de tarifs, on fait du protectionnisme beaucoup plus subtil, peut-être aussi plus pervers. Est-ce que le protectionnisme a joué un rôle, c'est-à-dire est-ce que les pays industrialisés se sont plus protégés contre, en particulier les pays africains, que d'autres pays? Je ne sais pas. Où sont passés les 250 milliards de dollars qui avaient été promis par le G20 justement pour faciliter, hein, la finance de commerce, la finance commerciale. Je ne sais pas, j'ai essayé de poser la question à plusieurs personnes et j'ai l'impression que la question est pour le moment restée sans réponse. Donc ces 250 milliards qui avaient été promis, on ne sait pas très bien où ils sont passés. Une troisième question, c'est est-ce qu'on peut mieux assurer les exportateurs des pays pauvres contre justement la destruction de la finance de commerce quand il y a une crise financière est-ce qu'il y a des moyens d'assurance de ce point de vue? Et quel doit être le rôle des banques régionales de développement dans ce contexte, en particulier pour assurer les exportateurs des pays les plus vulnérables à ce type de crise financière? Je pense à la Banque africaine de développement, qui, j'ai l'impression, avait un petit peu abandonné ce rôle sur la finance de commerce, mais qui peut-être, dans ce contexte, mais doit le faire évidemment ex ante, parce qu'une fois, si vous essayez de le faire en pleine crise, c'est extrêmement difficile. Et donc, je pense qu'il y a là, de ce point de vue, aussi... et ça, c'est une question sur le problème de l'aide au développement, à repenser cette question du rôle des banques régionales dans ce contexte.
Merci.
Merci beaucoup. Juste avant de donner la parole à Hassan, je voulais vous poser deux petites questions. Est-ce qu'il faut déduire de votre exposé que l'augmentation du commerce entre l'Afrique et la Chine n'a pas compensé la baisse des exportations africaines ailleurs? Jésus, est-ce qu'à votre avis, l'Afrique aurait ou non intérêt à un accord à l'OMC?
Non, mais sur la Chine, clairement, ça n'a pas compensé complètement. Hein. Ceci dit, je veux pas que mon exposé apparaisse trop pessimiste. Clairement, le fait que l'Afrique soit... dépendante du commerce international signifie qu'en effet, le commerce international a été cette porte d'entrée de la crise en Afrique. Mais ça signifie aussi que le retour de la croissance va être aidé par cette dépendance de l'Afrique sur le commerce international. Parce qu'on voit déjà le commerce international, si la reprise, bien entendu, ça va dans les deux sens. Hein, je crois qu'il... Une des raisons de la croissance forte africaine des 10 dernières années, c'est le commerce international, en particulier le commerce avec la Chine. D'accord ? C'est une petite partie, mais le commerce avec la Chine ou le commerce avec d'autres. Donc, il ne faut pas voir qu'à sens unique. C'est-à-dire qu'il est clair que la crise est entrée par le commerce international, mais il est clair aussi que la fin de la crise entrera aussi par le commerce international. Donc, de ce point de vue, je ne serai pas aussi négatif. Sur l'OMC, bon, il y a un certain nombre de pays africains qui sont dans l'OMC, donc je ne crois pas qu'il faut faire rentrer l'Afrique dans l'OMC. Dans
est-ce qu'ils ont intérêt à les accords de Doha pour être favorables à l'Afrique? Vous croyez que les pays africains ont intérêt à ce qu'il y ait un accord?
L'OMC, c'est ça la question. Bon, les pays africains ont intérêt, ça dépend de quel accord, je veux dire, on peut pas dire n'importe quel accord, je crois que dans l'Uruguay-Rand, un certain nombre de pays en voie de développement se sont sentis floués par cet accord, et je crois à juste raison, parce qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient extrêmement favorables aux pays industrialisés. Pour le moment, l'accord de Doha, comme vous le savez, est très en retard, et on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va pouvoir être signé. Donc ça dépend exactement ce qu'il y a dans cet accord. Si c'est un accord qui fondamentalement est favorable aux pays en voie de développement, et en particulier les pays moins avancés, oui, clairement, moi je suis de ceux qui pensent que le commerce international peut avoir un impact positif. Ce n'est pas une condition suffisante au développement de l'Afrique, mais à mon avis, c'est une condition nécessaire, exactement comme la croissance. La croissance n'est pas une condition nécessaire à la baisse de la... une condition suffisante, pardon, à la baisse de la pauvreté en Afrique, mais c'est une condition nécessaire. Exactement pareil pour le commerce international.
Merci. À vous. Allez. Qui veut... Oui, madame, allez-y.
Une question. Je suis de l'Université de Montpellier. Je m'adresse peut-être principalement à vous parce que vous m'avez fait un petit peu bondir de par ma profession et, économiste, mais aussi en tant qu'épouse d'une personne qui est dans le monde entier et qui travaille dans le sens du développement. J'ai eu l'occasion dans ma vie de vivre des expériences très denses et de voir beaucoup de choses. Et en particulier, il y a trois mots que je n'ai pas perçus dans votre discours. C'était le mot « corruption ». Que vous n'avez pas prononcé, c'est le mot femme que vous n'avez pas prononcé, et c'est le mot Chine, mais on a essayé un petit peu d'en parler maintenant. Corruption, chacun sait hein, ce qu'est la corruption.
On il n'a pas parlé de la corruption. Hein.
Le mot corruption n'a pas été prononcé. À la fin, dans votre exposé, j'étais attentive. Hein,
mais la Chine, qu'est-ce que vous voulez dire sur la Chine?
Alors, la Chine, bon, maintenant, je crois que vous avez un petit peu répondu. C'était justement cette nouvelle disons, page de l'histoire qui se présentait à l'Afrique avec la présence des Chinois en quantité extrêmement importante. Et vous savez qu'on parle beaucoup de néocolonialisme, okay, etc. Donc ça, c'est peut-être un sujet que vous pourriez aborder, hein, et ça, je pense que ça pourrait nous intéresser. En ce qui concerne donc la corruption, et ensuite quand vous avez insisté fortement pour dire qu'il y avait des contrôles, écoutez, j'ai assisté à des choses, notamment à Madagascar, concernant tout simplement les radiers. Vous savez qu'il y a beaucoup de radiers qui sont financés.
Une question, attendez.
Alors, oui, non, mais le contrôle, franchement, mais oui, mais si je ne donne pas un exemple concret, on reste dans le BCBG. Et c'est ça, si vous voulez, tout le temps, quand on parle de l'Afrique, on a des grandes idées. Moi, je suis pour le small is beautiful, des petites choses qui font avancer l'Afrique. C'est pour ça que alors, je donnerai un exemple après, si vous m'en laissez le temps. Mais pour ce qui est un exemple, par exemple, des femmes que vous n'avez pas citées, j'ai vu, par exemple, au Burkina Faso, au Mali, etc., le rôle très important des femmes dans, si vous voulez, la possibilité de sortie de crise ou de pauvreté de leur pays, et en relation, d'ailleurs, avec le développement durable. Si je vous donne un tout petit exemple, tout le monde...
Attendez, non, je préfère donner la parole.
Non,
vous n'êtes pas toute seule. Non, oui, excusez-moi, c'est moi qui gère l'horloge et la table.
Alors, je suis désolée, mais donc, restons en général.
Alors, voilà. La Chine... c'est bien d'investissement chinois pour l'Afrique ou pas. Et deuxièmement, mais je pose plutôt la question à Kiko, est-ce que le rôle des femmes qui évoluent après la crise, est-ce que cette évolution est pérenne ou pas?
Merci. Il y a plein de choses et de mots que je n'ai pas mentionnés. Et tout le monde sait bien que sans les femmes, nous ne serions pas là. Donc il y a quand même, bien évidemment. Donc c'était pas comme ça que j'avais conçu le message dans les minutes qui m'étaient allouées. Deux choses. D'abord, sur la corruption. Comme je pense la totalité de cette salle, je suis contre. Je suis contre. Je voudrais que nous luttions avec efficacité contre la corruption. À notre modeste niveau, c'est ce que nous faisons. Vous n'imaginez pas, et si vous vous intéressez aux choses non générales, je vous invite à regarder les procédures. Alors là, du coup, c'est vraiment pas général. Vous n'imaginez pas le temps qui est passé dans une agence de développement pour éviter tous les risques de corruption immédiate. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on fournit des ressources, on libère des ressources pour d'autres usages aussi. C'est ce qu'on appelle la fongibilité des ressources financières. Mais sur ce que nous contrôlons directement, je peux vous dire que nous passons un temps considérable à éviter la corruption. Maintenant, un mot quand même sur la corruption, parce que nous avons tendance à voir ça de notre sagesse et bonne façon de voir les choses occidentales, en oubliant d'ailleurs souvent qu'il y en a aussi encore chez nous, et probablement beaucoup trop, et en interprétant la corruption comme une pathologie qu'il faut soigner. Eh bien, je voudrais vous dire ma conviction que ce n'est pas une pathologie, c'est une caractéristique. C'est une caractéristique de sociétés non développées. Pour des raisons assez simples, c'est que dans la façon d'organiser le lien social au tout début du processus de développement, il ne peut pas y avoir dépersonnalisation des transactions, autrement dit je fais du commerce et des finances avec les gens que je connais, et donc bien évidemment derrière tout ça, il y a le copinage, il y a la gestion de la rente par les relations amicales, etc., et il y a la corruption. Donc il y a des travaux extrêmement intéressants en économie, notamment de Douglas North, de ses co-auteurs qui sont John Wallis et Barry Weingass, qui sont critiquables par certains aspects probablement, mais qui ont ce grand intérêt de montrer l'évolution socio-historique et de montrer que la corruption est une partie de l'histoire, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre, ça veut dire qu'il faut comprendre comment ça s'insère dans les réseaux sociaux et économiques du mal développement. Et ça veut dire aussi une chose avec laquelle il faut bien composer, c'est que les seuls qui peuvent gérer la transition vers davantage de développement, vers la dépersonnalisation du commerce, vers la concurrence et l'ouverture, ce sont les élites en place, même quand elles sont corrompues. Par exemple, comme elles sont en place, tout passe par elles. Et donc, on est obligé de prendre ça en compte et d'essayer d'améliorer les choses. Alors, la Chine...
C'est une bonne chose ou pas, les investissements?
Mais évidemment, enfin, je pense que c'est comme tous les sujets dont on parle, il n'y a pas de choses qui soient bonnes ou mauvaises comme ça, pof, par définition. Mais je crois que l'intervention de la Chine en Afrique peut être une grande chance pour l'Afrique. Ça tiendra à la capacité des pays africains à négocier avec les Chinois dans le sens de leurs intérêts collectifs, Et il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce point de vue-là. Le fait que la Chine puisse fournir des ressources à l'Afrique ne veut pas dire que tout d'un coup, par miracle, les pays africains sauront mieux gérer la rente tirée de l'exploitation des matières premières, par exemple. Et ça, c'est un vrai sujet sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je sens que vous êtes impatient.
Absolument.
Bonsoir, on a des femmes.
Oui, bon, moi j'ai parlé pas mal des femmes dans mon exposé. Au 19e siècle en France, on disait que les hommes buvaient et les femmes travaillaient et qu'il ne fallait pas donner trop d'argent aux hommes, c'était aux femmes d'avoir les salaires. Et quelque part, il y a un peu eu aussi ce débat aussi sur les transferts. Est-ce qu'il faut mieux donner les transferts aux hommes qui vont les boire, n'est-ce pas? Je suis un peu désolée. Ou est-ce qu'il faut les donner aux femmes qui, elles, vont au moins donner...
C'est ce que dit Younous.
Voilà, qui vont, elles, au moins donner du lait aux enfants. Donc ce problème qui n'est pas un problème pour moi, enfin, qui est sur le rôle des femmes dans la société et la manière d'utiliser ses préférences ou ses positions sociales différentes, est pour moi crucial pour essayer que l'aide soit efficace. La microfinance, voilà, est aussi complètement, d'abord, c'est aider les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir des impacts à long terme. Par exemple, quand les femmes se mettent à avoir une place différente dans le ménage, quand elles se mettent à avoir un salaire, quand elles se mettent aussi à être pas contentes, comme celles qui allaient taper sur les casseroles en Argentine et à faire des revendications politiques, après, quelle société va sortir de là ? Et c'est quelque chose qui nous paraît peut-être lointain, mais qui est aussi, je pense, présente aussi chez nous. Quelle société va sortir de cette nouvelle réorganisation avec des nouveaux perdants, des nouveaux gagnants, des gens qui changent un peu de position? Ce matin, on a beaucoup parlé de la peur, non seulement la peur du choc, de la crise, mais aussi la peur de savoir sur qui va tomber le couperet de la mondialisation et de la délocalisation. Et je pense qu'il y a aussi, à l'intérieur des ménages, une peur, ou en tout cas une incertitude sur le type de famille qui va émerger avec ces changements dans les positions des uns et des autres.
Ok, merci. D'autres questions? Oui, alors, monsieur... Ah, puis après on reviendra.
Oui, bonjour. Il y a un grand débat sur l'aide publique au développement. Moi, j'aurais aimé savoir, je vais faire très court, est-ce qu'il y a des indicateurs qui vérifie la corrélation entre l'aide publique au développement et la croissance des pays, okay. Ou encore mieux, entre la corrélation, c'est-à-dire le rapport entre l'aide publique au développement et le véritable développement, par exemple l'IDH de ces pays, l'IDH indicateur de développement humain de ces pays dont vous parlez. Est-ce que vous avez des véritables indicateurs qui permettent de quantifier la relation entre aide publique au développement et progression du PIB, de la croissance, ou encore mieux, de l'IDH et du développement de ces pays-là.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce thème-là? Oui, non, c'était pas là-dessus.
Ok, alors on va laisser Pierre Jacquel. Ou d'autres. La réponse, enfin, votre question porte sur l'efficacité de l'aide au développement. Et c'est un sujet, évidemment, qui nous occupe tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Derrière ce sujet, il y a la question de la mesure. Quel est l'indicateur, quels sont les indicateurs pertinents pour mesurer l'efficacité? Et alors, vous avez en tête des indicateurs de type macroéconomique, IDH ou croissance économique, et à ce moment-là, ça renvoie à des études globales, qui sont des études économétriques multi-pays, et sur lesquelles il y a aujourd'hui débat. Vous avez des travaux qui ne montrent pas de corrélation, et d'autres qui en montrent. Il me semble aujourd'hui que les travaux les plus convaincants conduisent à une certaine corrélation positive. Je prends des précautions simplement parce que l'agrégat d'aide que l'on utilise dans les agrégations, dans les corrélations, dans les études empiriques, est un agrégat très peu satisfaisant. Dans les chiffres aujourd'hui de l'aide au développement des différents pays, pas seulement de la France, vous avez plein de dépenses qui ne vont pas dans les pays, qui sont quand même utiles pour le développement, comme les travaux de recherche sur le développement, les travaux d'accueil, les dépenses d'accueil des réfugiés, l'aide alimentaire qui n'est pas programmable, les réductions d'aide qui sont à mon avis de l'aide au développement, qui ne sont pas programmables par les pays, les bourses ou l'équivalent monétaire de l'accueil d'étudiants de pays en développement dans vos universités. Tout ça, c'est quelque chose qui est très important. Et par ailleurs, vous avez des travaux qui montrent bien que si vous prenez dans les flux d'aide Ceux qui traitent directement de la croissance, par exemple la construction d'infrastructures, l'irrigation, l'aide à la production agricole, etc., à ce moment-là, il y a une corrélation positive très nette. Si vous commencez à rentrer dedans les dépenses sociales de réduction de la pauvreté, la corrélation est moins évidente et n'apparaît pas à court terme. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de débats sur la nature des travaux économiques globaux. Ce que l'on fait à l'Agence française de développement, parce que nous sommes petits, donc nous ne pouvons pas avoir, même si on en a parfois le rêve, l'objectif immédiat de changer le monde immédiatement, nous avons des indicateurs plus précis. Nous comptons le nombre de personnes qui vont être accordées à l'électricité, à l'eau potable. Nous comptons le nombre d'emplois qui vont être créés dans tel secteur. Nous essayons d'avoir des indicateurs concrets, mais de nature beaucoup plus microéconomique. Et notre travail sur l'efficacité, il a deux dimensions. La première, c'est, quand on lance un financement de projet, de définir les objectifs que l'on poursuit, d'être convaincu par le fait que ce que l'on va financer permet d'atteindre ces objectifs, en tout cas de s'y attendre, et puis de suivre la réalisation avec des indicateurs concrets, opérationnels. Et puis la deuxième source pour nous de notre travail sur l'efficacité, c'est l'évaluation. L'évaluation ex post de nos programmes et projets en partenariat avec des universités, et on a beaucoup de choses là-dessus en cours. C'est pas pour ça qu'on a résolu le problème de l'EFC, c'est une vraie question. C'est pour ça que j'étais particulièrement déçu par le livre de Dami Samoyo, parce que je crois que la question reste posée, bien sûr.
Ok, merci. Madame.
Bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez des microcrédits qui sont... au lieu de finalement d'aider à développer des petits projets et tout ça, finalement des fois ça étouffe un peu les entrepreneurs, et je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que j'ai lu un livre de Daniel Cohen et il parlait de la pression des villes sur les campagnes et il parlait des microcrédits, ouais. Justement qui des fois ne servaient pas du tout au développement de tous les projets des campagnes.
D'accord, merci. Qui veut répondre? Diversité de microcrédit. Alors très vite.
Microcrédit, c'est très important, très efficace. Effectivement, il y a un débat. Je crois que le débat essentiel, en tout cas en recherche, ce que je connais, c'est sur le coût. Ça marche avec énormément de pression sociale. Quel est le coût véritable de monter ces instruments de microcrédit, de les contrôler, et de mettre à disposition par rapport à peut-être à d'autres dispositifs, peut-être plus formalisés et plus ouverts, ou juste du transfert pur et simple, on ne sait pas très bien. Et d'autre part, l'autre chose, c'est le succès du microcrédit, ça veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de compétition entre différentes institutions de microcrédit, et ça veut dire que le taux de remboursement, s'il y a beaucoup de compétition, on peut ne pas rembourser à l'un et aller vers un autre guichet, donc il y a aussi des problèmes de remboursement qui commencent à se poser.
Oui, non, mais voilà, c'est ce que disait Akiko, et effectivement, moi j'avais discuté avec Younous, et Younous dit bien que le microcrédit doit servir l'investissement et non pas la consommation, et maintenant il y a une telle concurrence entre certains organismes de microcrédit, il y en a même un qui s'est mis en bourse, dont les actionnaires sont devenus multimillionnaires. Je disais donc, il y a une telle concurrence entre organismes de microcrédit qu'effectivement certains font du prêt à la consommation et non pas à l'investissement, ce qui est une dérive. Donc, dénonce Younous et d'autres.
Je voudrais dire deux choses très rapides. La première, c'est que nous faisons à l'AFD beaucoup de microcrédits, et je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile, et dans lequel, en effet, le rôle des femmes est essentiel. Nous le voyons évidemment tous les jours avec nos propres opérations de microcrédit. La deuxième chose que je voulais dire, c'était vous inviter à regarder le travail qui vient d'être publié par quatre sociologue, économiste, c'est un peu de travail d'ailleurs d'anthropologie économique. Les noms, c'est Collins, Morduk, Roosevelt et Rutherford. Et le livre s'appelle Portfolio of the Poor. Et c'est un ouvrage qui est fondé sur des enquêtes de terrain sur 250 ménages dans 4 pays. Il y a le Bangladesh, il y a l'Inde, l'Afrique du Sud et puis un quatrième que je n'ai pas là immédiatement en tête. Et c'est un ouvrage qui regarde comment les pauvres, les ménages pauvres, gèrent leurs ressources financières et monétaires, avec une idée qui me semble essentielle, mais pas nécessairement immédiatement intuitive, c'est que moins vous avez de ressources financières, plus vous avez besoin de services financiers pour en maximiser l'utilité. Et que vous ayez ou non du microcrédit tel que nous appelons le microcrédit, les ménages pauvres qui sont enquêtés dans ce livre entrent dans tout un tas de transactions financières informelles. Et le surendettement, vous l'avez au départ, parce que les ménages ont besoin de consommer. Moi, je veux bien qu'on dise, on va surtout pas leur prêter pour la consommation. Ben, si vous ne leur prêtez pas pour la consommation, ils vont emprunter à leurs collègues, leurs amis, leurs familles, avec tout ce qu'il y a derrière de pression sociale ou familiale. Et donc, j'ai pas le temps, là, visiblement, de rentrer dans le détail de ce livre, mais qui est extrêmement intéressant. La conclusion forte de ce livre, c'est qu'aujourd'hui, les pauvres ont besoin de services financiers plus efficaces que ceux qu'ils trouvent dans le secteur informel. La microfinance a commencé à leur apporter ces services financiers, mais elle a seulement commencé. Et je terminerai par juste un exemple. Les pauvres ont besoin d'assurance pour se couvrir contre les risques notamment ex-santé. Aujourd'hui, ils construisent cette assurance dans le secteur informel. C'est très coûteux, c'est inconfortable, c'est une source de pression sociale et parfois morale. Or, les produits d'assurance qui seraient éventuellement disponibles reposent sur leur versement de primes trop espacées, donc trop importantes. Et on pourrait, c'est l'une des conclusions, des suggestions du livre, imaginer des services d'assurance qui soient fondés sur le paiement de primes hebdomadaires, qui seraient de beaucoup plus petits montants, et les pauvres sont prêts et désireux, souvent, de consacrer des petits montants aux services financiers dont ils ont besoin pour lisser leur consommation.
Merci. Je vous propose de terminer cette table ronde par cette proposition. Merci à vous. Au revoir.